France Culture. L'heure du journal de la rédaction et on retrouve Antoine Geoffin. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Israël va élargir son offensive dans la bande de Gaza malgré les appels de la communauté internationale pour faire taire les armes et alors que de nouvelles discussions indirectes avec le Hamas sont en cours au Qatar, l'enclave palestinienne toujours coupée du monde. Nous sommes en Roumanie dans ce journal à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le favori, le candidat d'extrême droite, a décidé de fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, réseaux sociaux qui auront décidément joué un rôle déterminant dans cette campagne inédite. En France, les députés continuent d'examiner la proposition de loi fin de vie et votent pour que ce soit aux patients de s'administrer eux-mêmes le produit létal pour mourir. Enfin, nous irons à Cannes pour parler d'un film japonais, Renoir, présenté aujourd'hui. La menace d'une nouvelle opération terrestre encore renforcée dans la bande de Gaza 24 heures. Après le voyage du président américain Donald Trump dans les pays du Golfe, l'armée israélienne a annoncé élargir son offensive. Dans Gaza, les frappes se sont intensifiées et les mouvements de population sont de plus en plus importants. Au moins 10 personnes ont été tuées dans la matinée d'après la défense civile. L'accès à l'enclave palestinienne reste interdit aux journalistes internationaux, mais Étienne Monin, vous avez pu joindre des habitants sur place.
Sur la vidéo, on voit les flammes et l'intensité de la frappe qui vise les abords d'un hôpital dans la partie nord de Gaza. La nuit a été particulièrement intense, dit Noureddine, installé dans la ville de Gaza aux premières loges, joint par WhatsApp.
Toute la nuit, on a pu entendre les sons de démolition et des bruits d'artillerie. Cette nuit, c'était sans doute le plus fort qu'on ait entendu.
D'après les chiffres des Nations Unies, autour de 19 000 personnes se sont déplacées la nuit dernière depuis la partie nord. Olga Cherevko travaille pour l'agence humanitaire de l'ONU. Elle parle d'une escalade sur les 48 dernières heures.
Les opérations militaires se sont intensifiées dans Gaza, que ce soit au nord ou au sud. De ce que l'on sait, les tanks ont commencé à avancer plus profondément dans la partie nord hier.
L'armée est soupçonnée de mettre en pratique un plan annoncé début mai qui consiste à déplacer à nouveau la population vers le sud pour élargir son contrôle dans l'enclave. Mais les habitants restent hésitants, explique Ziad Medouk depuis la ville de Gaza.
Il faut attendre les jours qui viennent pour voir est-ce que l'occupation va envahir toute la ville de Gaza ou il va rester sur les frontières. Les gens, je pense maintenant, ils sont en train de réfléchir mille fois avant d'avoir un nouveau déplacement.
Ces derniers jours, les bilans se sont alourdis et l'aide humanitaire n'entre toujours pas dans l'enclave.
Et aujourd'hui, le Hamas fait savoir qu'un nouveau cycle de négociations indirectes avec Israël a débuté au Qatar. Donald Trump déclare cet après-midi qu'il parlera lundi au téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avec pour objectif, écrit le président américain, de mettre fin au bain de sang. Hier, pour la première fois, Russie et Ukraine ont échangé directement face à face en Turquie, première fois depuis 2022, mais sans résultat pour un cessez-le-feu. La Roumanie retient son souffle dans ce contexte à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, plus de 6 mois après l'annulation du premier scrutin où un inconnu, Calin Georgescu, avait terminé en tête. Élection finalement annulée à cause d'ingérence russe via le réseau social TikTok. Demain, c'est le candidat d'extrême droite, le souverainiste George Simion, qui est donné favori à la lumière de sa large avance au soir du premier tour. C'était il y a 15 jours. Bonsoir Virginie Pierronon.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Culture en Roumanie, Virginie, la campagne d'entre-deux tours s'est largement poursuivie sur les réseaux sociaux et George Simion, le favori donc, a annoncé aujourd'hui qu'il fermait ses comptes Facebook et TikTok.
Oui, il y a eu comme du flottement dans l'air cet après-midi à Bucarest, un air qui par ailleurs est très électrique à la veille de ce second tour. Dans un premier temps, c'est un influenceur, un proche de George Simion, qui a affirmé que ses comptes des réseaux sociaux avaient été fermés par Facebook et TikTok. Mais TikTok a très vite réagi en expliquant que non, ce n'était pas sa décision. George Simion a ensuite affirmé qu'il avait décidé de fermer ses comptes lui-même. La campagne est officiellement close depuis hier soir minuit. C'est un jour de silence, a-t-il déclaré, tout en accusant accusant son adversaire Nico Jordan de s'être lui exprimé sur les réseaux sociaux et donc potentiellement de s'être mis hors la loi. Alors difficile à cette heure, même pour les analystes ici à Bucarest, de décrypter les intentions de Georges Simion. Une chose est sûre, c'est que jusqu'au bout, les réseaux sociaux ici auront joué un rôle prépondérant dans cette campagne. Depuis ce qui s'est passé en novembre 2024, les autorités roumaines ont tenté de réguler les messages politiques sur les réseaux sociaux, mais il s'avère que la tâche est extrêmement difficile. Une étude publiée ces derniers jours en Roumanie montre que les contenus d'extrême droite ont été diffusés 3 fois plus que les contenus du reste du spectre politique. Ce qui n'a pas empêché le centriste Nico Jordan de rattraper son retard. L'écart entre les deux hommes s'est considérablement resserré. Et même si ces derniers jours, Georges Simion s'est dit certain d'être élu, en réalité, ce sera beaucoup plus difficile pour lui, en particulier si la participation est forte. Les derniers sondages donnent les deux hommes au coude à coude.
En France, l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie s'est poursuivi aujourd'hui à l'Assemblée, puisque les députés ont 2000 amendements à étudier d'ici lundi. Alice Cachaner, vous suivez les débats dans l'hémicycle et cet après-midi, les députés sont allés dans le sens du gouvernement sur un point.
Le scrutin était serré, l'amendement du gouvernement a été adopté avec 8 voix d'écart. Ce sera donc aux patients de s'auto-administrer le produit mortel. L'intervention d'un soignant ne sera autorisée que dans des cas exceptionnels. Un retour donc à la philosophie initiale du texte dont se félicite la ministre Catherine Vautrin.
Ce dernier acte pour nous doit appartenir à l'individu et nous sommes bien dans le respect de l'autonomie du patient. Cela permet de garantir qu'il s'agit d'un acte personnel du patient, ce qui répond d'ailleurs aux craintes de celles et ceux qui se posent la question du discernement.
Une mesure qui va ajouter de l'angoisse à la souffrance du patient, fait valoir le rapporteur du texte Olivier Falorni. Même regret pour le communiste Yannick Monet, qui aurait préféré que le choix des moyens soit laissé intégralement à la personne en fin de vie.
On fait une loi pour l'effort, parce que si quelqu'un a la force morale de s'injecter un produit, s'il remplit bien évidemment tous les critères, il pourra bénéficier de l'aide à mourir. Par contre, si quelqu'un n'a pas la force morale, il ne pourra pas y accéder. Ok pour la fin de vie, mais débrouillez-vous. C'est ce que, pour moi, veulent dire vos amendements.
L'an dernier, la Convention citoyenne s'était prononcée très largement en faveur d'un modèle français laissant un libre choix aux patients entre suicide assisté et euthanasie.
Alice Cachaner, les 121 000 adhérents du Parti Les Républicains commencent à voter depuis 18h ce soir jusqu'à demain, 18h toujours par voie électronique pour élire leur prochain chef. 2 candidats, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le patron du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Les résultats doivent être annoncés demain soir après la clôture du scrutin. 18h07 sur France Culture, France Culture au Festival de Cannes où les premières stars en compétition sont arrivées hier soir, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, pour défendre le film d'Ari Aster, Eddington. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Antoine.
En direct de Cannes, le film était très attendu mais il ne vous a pas franchement convaincu. Vous l'avez préféré une découverte, Renoir, de la japonaise Chie Ayakawa.
En effet Antoine, il faut savoir que la compétition cannoise c'est un peu la grande bourse des valeurs. On est prêt à miser sur certaines et elles s'effondrent dès leur introduction alors que d'autres, surgies de nulle part, remportent la mise. Avec son très attendu nouveau film Eddington et malgré le trio de stars venus pour le défendre, vous l'avez dit, les 2 sex-symboles masculins du moment, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal et Emma Stone dans un second rôle, Ari Aster a vu se crever la bulle spéculative qui avait accompagné son émergence comme nouvelle tête de gondole de l'auteurisme indépendant américain. Sur le papier, c'était pourtant séduisant, un néo-western dans une bourgade du Nouveau-Mexique où s'affrontent les ambitions d'un maire fortuné et d'un shérif aussi asthmatique qu'incompétent, le tout en mai 2020, c'est-à-dire, et oui, ça semble déjà si loin, en pleine épidémie de Covid-19 avec les masques et confinements afférents. Mai 2020, c'est aussi le meurtre de George Floyd par des policiers et les émeutes violentes qu'il va déclencher dans le pays avec l'huile jetée sur le feu par les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux. Ari Aster met tout cela dans un shaker et en recrache cet Eddington qui tient moins du western que d'une satire politique extrêmement cynique qui renvoie dos à dos les Amériques woke et MAGA, tout aussi minables et grotesques l'une que l'autre. Le tout s'achève dans un grand massacre final qui spectacularise plus qu'elle ne dénonce la violence qui est, on le sait, consubstantielle aux États-Unis. On aura été beaucoup plus sensible à un autre film d'époque, le Renoir de la japonaise Chie Ayakawa, qui dès son deuxième film, après Plan 75, Caméra d'or à Cannes en 2022, confirme la justesse de son regard avec ce portrait par petites touches impressionnistes d'une enfant de 11 ans confrontée en 1987 à la mort programmée de son père cancéreux et qui va déployer une fantaisie et un imaginaire aussi débordant que macabre. Un magnifique film qui n'a pas besoin de faire les gros bras pour nous toucher en plein cœur.
Antoine Guillot en direct de Cannes pour France Culture. Merci. Et d'ici un peu moins de 3 heures désormais, c'est le début de la finale de l'Eurovision à Bâle en Suisse. La France est représentée par la chanteuse Louane et sa chanson Maman. Elle fait d'ailleurs partie des favoris de la compétition. Le temps de demain avec un beau soleil pour tout le pays. Vous aurez 7 à 16 degrés le matin, 19 à 26 l'après-midi.